La belle vampire par Léon Sazy. Chapitre 1er. Contre les espions. Pour la première fois, peut-être, depuis que je le connaissais, que nous faisions dans sa voiture des courses dans Paris ou des randonnées dans la campagne, Martin Huma parla tout en roulant. Jusqu'ici, dès qu'il montait en voiture, il se mettait dans le fond, allumait une cigarette et, silencieusement, fumait, tout en regardant par la portière. Moi, qui connaissais si bien ses manies, de même que ses seconds, Prosper et Philippe, je respectais son silence. Pour rien au monde, je ne lui aurais posé la moindre question sur l'affaire en cours. Il ne fallait d'ailleurs, nous le savons, lui parler, où que l'on se trouvât, à quelque occasion que ce fût, sous n'importe quel prétexte, quand lui-même ne parlait pas ou ne vous posait pas de questions. Ainsi donc, grand fut aujourd'hui mon étonnement, quand dès que son auto se mit en marche, lorsqu'il eut tiré quelques bouffées de sa sempiternelle cigarette, Martin Huma, au lieu de se pencher, de regarder par la portière, se tournant vers moi, me dit « Eh bien, mon bon Courville, j'espère que vous êtes content de votre matinée. La journée s'annonce bien, merveilleusement. Je crois que vous avez sinon sur la planche, comme on dit habituellement en pareil cas, du moins dans votre stylo, matière à un reportage sensationnel comme on en voit rarement. Oui, je crois avoir des éléments d'un des plus beaux papiers de ma carrière. Dans cette affaire des plus mystérieuses, dès le début, je prévois que les surprises les plus grandes nous sont réservées. Je le crois aussi. Nous devons nous attendre à des coups de théâtre extraordinaires, fantastiques, de quoi faire palpiter les foules. Tout Paris, qui sait que vous m'accompagnez, attend votre copie, va dévorer vos articles, avec frénésie, grâce à vous, à votre stylo, mon cher. Mon stylo ne pourra que faire connaître au public ce que Martin Huma, le roi des détectives, aura accompli. Martin Huma, en riant, me coupa la parole. « Trêve de compliments, mon bon Courville. Nous sommes de trop vieux camarades pour nous donner des coups d'encensoir à travers la figure. Mais vous rendre justice n'est pas vous encenser, et je sais que la flatterie ne prend pas avec vous. D'autant plus que nous avons travaillé côte à côte, et souvent partagé les mêmes dangers, assez de fois déjà, depuis bon nombre d'années, pour que nous ne tirions pas vanité devant le public du résultat heureux d'une affaire. » Ici, comme toujours, une seule chose nous intéresse, nous passionne, c'est la poursuite de ce résultat. C'est la difficulté du problème de la réussite à résoudre. C'est le danger même que peut contenir la recherche de cette solution qui, le lendemain de la réussite, nous méritera les applaudissements que d'ailleurs nous n'entendrons pas. C'est exact. Mais avant tout, il faut arriver à cette réussite. Évidemment, si ce n'est pas le plus commode, c'est, comme vous le disiez, le plus intéressant. « Poursuivons donc l'affaire, mon bon Courville, et surtout, ne vendons pas la peau de l'ours avant de l'avoir en main. » Martin Huma ajouta, « Et je crois que notre ours, cette fois, nous donnera quelques peines. D'autant, mon cher ami, que cette fois, l'ours à abattre est multiple. »« Multiple, » dis-je avec étonnement, ne comprenant pas très bien le sens de cette parole. « Oui, multiple, multiforme, divers et ondoyant. » En riant, le roi des détectives s'écria « C'est beaucoup, hein ?»« Pas mal, mais ça vous va. Vous n'aimez pas les affaires simples et trop faciles. »« Mon bon Courville, dans ce cas, cette fois, je crois que nous sommes servis à souhait. » Martin Huma alluma une nouvelle cigarette et me dit « Voulez-vous que nous récapitulions ensemble la donnée du problème qui s'oppose à nous depuis tout à l'heure ?»« Très volontiers. J'avoue même que j'en serais très heureux, pour la clarté de mon reportage. » Avant de répondre, Martin Huma me dit, changeant de ton, « D'abord, regardez par la portière. Où sommes-nous »« Aux Champs-Élysées, » répondis-je avec stupéfaction. « Où allons-nous ? Rue d'Amsterdam. » « Alors, vous devez trouver que, passer par les Champs-Élysées pour aller de la rue de Lepelletier à la rue d'Amsterdam, en somme presque voisine, c'est une singulière façon de voyager. » « Pour tout autre que vous, assurément. Mais vous, pour faire ce détour, vous devez avoir de bonnes raisons. » « Courville, mon ami, vous avez dit la vérité. Une des raisons est que je tiens à dépister ceux qui auraient la fantaisie de nous suivre. Comment vous croyez ? Je suis persuadé que j'ai des espions dans mon sillage. Ce qui vous donnerait à supposer que vous allez encore avoir affaire à une bande. Nous verrons. La seconde raison est que je veux, sans être gêné, pouvoir jeter un coup d'œil chez Charles Castagnier, le fils de la victime. Vous croyez que ce garçon a pu commettre ce parricide ? « Courville, quelle question ! Vous savez que je n'ai rien à supposer, rien à croire, mais seulement à voir. »« Très juste, excusez-moi. » Revenons au problème. Le voilà dans sa tragique, et, comme je vous l'ai dit, multiple simplicité. On a découvert dans son bureau le riche banquier Castagnier, mort sans blessure apparente, et à côté de lui, sa fille aînée Irma, morte et portant elle au cou les traces très visibles de strangulation. Chercher le coupable et la raison du meurtre, voilà la donnée du problème, rien de plus clair, rien de plus simple, en apparence. Pour arriver à le résoudre, nous avons des documents qui l'embrouillent admirablement. Nous avons le visiteur brun à démarche militaire portant des bottines vernies. Nous avons le marquis de Carmine et Santucci, fiancé de la victime Irma, et qui porte aussi des bottines vernies. Le marquis, qui prétend n'être venu qu'une fois à la banque, quand le solennel portier affirme qu'il est venu deux fois. Le marquis que l'ami Bessette, ami du père du marquis, ami du marquis lui-même, ne reconnaît pas. « Mais alors, m'écriai-je, ce marquis, attendez, mon bon Courville, me dit vivement Martin Huma, attendez. Nous avons Charles Castagnier, fils du banquier, qui avait besoin d'argent et qui, pour en avoir, fait des menaces terribles. Sans doute, mais pour avoir de l'argent, tuer son père, sa sœur. Attendez, Courville, voilà les personnages. Nous avons ensuite, et ceci est à notre profit, nous avons des écorchures de bottines vernies. Nous avons des signatures du coupable. Les empreintes des doigts, du pouce, sur le bloc-notes, l'empreinte avec son auréole graisseuse, la signature de la main qui a étreint le cou charmant de la morte. Eh bien, mon bon Courville, soyons méthodiques et commençons par le commencement. Nous n'avons pas besoin de rechercher le marquis Carmine di Santucci. Nous le verrons toujours soit chez celle qui devait devenir sa belle-mère, la femme du banquier Castagnier, soit chez lui, soit même chez son ami le prince Ramolino, qui l'a, vous vous en souvenez, donné comme preuve d'alibi lors de la déclaration du solennel portier. Oui, je l'ai noté. Bon, nous avons à rechercher l'homme brun à l'allure militaire, qui avait des bottines vernies. Nous pourrons sans doute trouver son adresse dans les papiers, les fiches du banquier. Reste maintenant Charles Castagnier fils, qui avait besoin d'argent et qui a fait des menaces. Or, le bon père Morisson nous a appris que Charles Castagnier avait enlevé sa fille Blanche. S'il a enlevé la fille du père Morisson, il n'a pas dû rester chez lui. C'est probable. Il a dû filer avec elle vers des cieux plus tranquilles. Surtout s'il a commis cet horrible crime. Qu'il l'ait commis ou non, il a pris le large avec Blanche Morisson. Nous aurons à voir aussi ce que vaut cette Blanche Morisson. Peut-être complice? Nous verrons. Ce couple d'amoureux, coupable ou non, n'a pu partir que dans la soirée, hier ou aujourd'hui, dans la matinée. Donc, nous allons trouver l'appartement de Charles Castagnier encore intact. Personne n'a eu le temps d'y toucher, de mettre les doigts sur les objets, d'y imprimer des traces parasites. Je comprends. Vous espérez découvrir chez Charles Castagnier des empreintes pour les comparer à celles du feuillet du bloc-notes. Tout simplement. Il faut donc que nous arrivions les premiers, naturellement. Et c'est pour aller plus vite que nous avons fait ce détour par les Champs-Élysées, que nous voici sur les boulevards extérieurs. Nous étions arrivés place Clichy. L'auto, sans que Martin Huma ait donné aucun ordre, s'arrêta devant un des cafés. « Nous allons prendre un porto, mon cher Courville. Il est impossible, dans ce flot d'auto qui vient dans notre sens, de reconnaître celle qui probablement nous donne la chasse. Oh, absolument impossible. » Mais en nous asseyant à la terrasse, auprès d'une porte, nous verrons bien les autos qui vont s'arrêter devant le café, et les clients ayant envie, comme nous, de se rafraîchir. Je connais à peu près tous les clients de ce café, je distinguerai donc un étranger. Mon flair m'indiquera le suspect. Alors nous allâmes prendre place sur la terrasse. Martin Huma fumait sa cigarette sans rien dire, enveloppant d'un coup d'œil rapide qui entrait ou venait s'asseoir non loin de nous. Au bout d'un moment, il me dit « Je ne vois rien. On ne nous suit pas. Ou bien, méfiant et roublard, on nous espionne d'un autre point. Bon, nous allons voir. » Vous devez bien imaginer le moyen de le dérouter. Nous allons essayer, tout au moins. Partons. Martin Huma me fit traverser la place Clichy. Nous prenons le métro. Peu après, posé sur le quai, il étudia sans en avoir l'air tous les clients qui donnaient leurs billets à pointer. Et presque au moment où le train se mettait en marche, il me poussa dans le dernier compartiment. « Nous allons, me dit-il, en sens opposé de l'adresse où nous voulons aller. C'est encore un moyen à vous pour y arriver plus vite, ou tout au moins pour arriver plus sûrement. À la station Marcadet, il me dit « Attention, Courville, nous allons faire la même manœuvre, mais en sens contraire, sauter sur le quai au moment où les portes se fermeront. » La manœuvre fut parfaitement exécutée, en dépit des grognements de quelques voyageurs que nous avions dû bousculer. « De cette façon, me dit Martin Numa, nos suiveurs, même s'ils ont deviné notre intention, n'ont pas pu sauter du train et nous suivre. » Alors, nous n'eûmes plus qu'à passer sur l'autre quai, à refaire le chemin, et peu après, nous sortions de la station Saint-Lazare. Encore un moment d'étude, un coup d'œil dans les environs, un regard sur les passants, et Martin Numa, ayant pour occuper en apparence ce temps d'inspection acheté un journal à un kiosque, m'entraîna. Nous pouvons aller sans crainte. Et à pied, à pas de promenade, nous arrivâmes devant la maison où habitait Charles Castanier.